Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable avec plein de choses à se raconter. Ce soir encore, je vous présente nos invités. Éric Savignac, bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Forest, bonsoir.
Bonsoir.
Les messieurs du rugby et puis le monsieur de la moto, Clément Muller, bonjour.
Et bonsoir. Bonsoir.
Messieurs, on va commencer non pas par le rugby ni par la moto, on va parler football si vous le voulez bien pour commencer. Nos jeunes Calédoniens qui étaient à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'était au Chili, ça s'est achevé ce matin avec une défaite face à l'équipe de France 6-0. Je vous redonne les autres résultats des Calédoniens dans cette Coupe du Monde, avec une défaite face à l'Afrique du Sud 5-0 et une défaite en ouverture face aux États-Unis 9-1. On l'entendait, Léana le disait, finalement au-delà du résultat, c'est un peu d'expérience acquise, une belle aventure humaine. Ça, quel est votre sentiment aux uns et aux autres, Pierre, peut-être ?
Oui, c'est surtout une belle aventure, comme tu l'as dit, hein, humaine et sportive en même temps. Mm-hmm. Parce que, évidemment, comme l'ensemble des sportifs calédoniens sortaient un petit peu d'une année 2024 complètement érodée et donc désastreuse, je pense que on le savait qu'ils étaient tombés dans une poule de très haut niveau, mm-hmm. hein, l'équipe nationale française, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Mais je crois qu'au-delà des performances, c'est plutôt, je pense, l'expérience qu'ils vont, et on espère qu'ils vont continuer. Parce qu'il n'y a rien de tel que de pratiquer à ce niveau-là pour pouvoir progresser, pour pouvoir se juger par rapport à l'adversaire. Mm-hmm. Et malheureusement, je suis tenté de dire, c'est aussi la position géographique du sport en Nouvelle-Calédonie et du foot en particulier, puisqu'ils sont affiliés à la Fédération internationale, c'est de toujours rencontrer les mêmes qu'on rencontre aux Jeux du Pacifique, que mm-hmm. ce soit là pour les seniors, mais aussi pour les jeunes, mm-hmm. que ce soit le Vanuatu, même si c'est aussi des bons matchs. Mais là, on est passé à un autre calibre, à un autre niveau. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a certainement que Pierre Wajoka, le coach entraîneur, il aura beaucoup d'enseignements à tirer de cette confrontation, mais ça ne peut être. Et ils se sont fait connaître. Le Chili, je crois, la plupart des Chiliens ne connaissaient pas la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'ils ont été reçus un peu à bras ouverts partout, que ce soit à l'ambassade française et...
Mais il y a l'ambassadeur de France qui est passé les voir.
Voilà, ouais. Donc c'est bien, mais il faut maintenant peut-être rester sur ce niveau-là, mm-hmm. voir comment ils peuvent progresser encore, et ne pas redescendre ici au niveau local, comme on dit, quoi.
Éric Savignac, vous avez été sportif de haut niveau. Quand on a 20 ans, on fait une Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. On prend quand même trois panses face aux trois équipes. Alors, c'est pas une surprise hein, d'avoir ces résultats-là. Est-ce que... quelque part dans la tête pour des gamins qui ont moins de 20 ans, ça peut pas nous faire un petit peu mal quand même.
Bah, écoutez,
comment on se remet de ce genre de choses?
Bah déjà, je pense qu'ils ont un bon encadrement, ouais. qui va leur expliquer un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Quand on dit qu'on apprend dans la défaite, voilà, pour le coup, ils ont appris énormément. Pierre a pratiquement tout dit. Déjà, l'exploit, c'était de faire partie d'une phase finale. Mm-hmm. C'était déjà extraordinaire, et de rencontrer ces équipes. Maintenant, voilà, la défaite, ça fait partie du jeu. Ils sont jeunes, et l'encadrement aura un travail à faire pour les remotiver, et puis penser un petit peu les plaies. Mais à cet âge-là, bon, c'est pas rédhibitoire, donc je pense qu'ils pourront rebondir, et ils ont appris énormément. En tout cas, voilà, on fait connaître la Nouvelle-Calédonie au travers de ce sport, c'est vraiment formidable.
Ouais.
Et donc du coup, voilà, on leur souhaite une bonne récup, mentalement, physiquement, et puis repartir de plus belle, parce que quand on a vécu cette expérience, on a envie d'y retourner, avec plus d'armes, à la fois du côté du terrain, mais également du côté de l'encadrement, et peut-être des supporters, voilà, les encourager sur les prochains matchs, sur les prochaines confrontations, aller un peu leur montrer toute la fierté qu'on peut avoir, qu'ils aient montré leur football, leur pays, et puis voilà, c'est très bien.
Pierre ?
Oui, malgré les scores très défavorables, je crois qu'ils ont surtout beaucoup appris, et ils ont surtout beaucoup gagné. Mmh. Gagner, puisque c'est les U20, c'est quand même l'équipe de Nouvelle-Calédonie dans les prochaines années, dans très peu de temps. Donc il y a une équipe senior actuelle, ils ont intérêt à aussi bien se comporter, parce que cette expérience-là ne peut être profitable que pour faire progresser encore le football calédonien dans les 5-10 ans à venir.
On va parler des filles également, simplement pour signaler que les en moins de 19, elles se sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Alors il y a eu une défaite face à la Nouvelle-Zélande en finale du tournoi OFC, mais j'allais dire, qui ne perd pas face à la Nouvelle-Zélande ?
C'est toujours contre les Néo-Zélandais.
Oui.
Depuis que l'Australie a quitté le giron, l'OFC, pour aller en Asie, les finales, toutes les catégories, garçons ou filles, c'est toujours en finale contre la Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est vrai que ça ne fait qu'un match de haut niveau parmi les autres, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que cette expérience-là au Chili avait quand même d'autres... C'est tous pratiquement des joueurs semi-pro, voire
bien sûr,
pro,
ouais,
des clubs de référence. Hein, donc vraiment là... Voilà, il faut continuer dans cette voie, on ne peut que les encourager, la fédération également, président Gilles Tabergeux, les encourager à poursuivre, parce que c'est l'avenir, c'est bien, c'est super.
Clément Muller, le foot, vous, c'est votre truc ou pas franchement ?
Pas spécialement, mais je suis sportif, ouais, donc je peux rejoindre que ce qui vient d'être dit. C'est des âges, quand on est jeune, donc on a moins de 20 ans, où il faut que nos encadrants arrivent à nous mettre en tête que c'est de l'apprentissage et que c'est grâce à ces défaites que demain on sera meilleur et qu'on va progresser grâce à ça. Parce qu'on progresse moins quand on fait des très bons résultats, parce qu'à 18 ans, quand on gagne, on a l'impression d'être déjà très bon et on travaille moins. Oui. Quand on prend des rouillés comme ça, faut dire ce qui est, on retourne au travail. Après, c'est le taf des encadrants de dire, ben là, maintenant, on a compris et on va mettre les choses en place. Et c'est le travail de l'équipe derrière qui est... Mais je trouve que c'est hyper positif d'avoir le nom de la Nouvelle-Calédonie associé à ce type de championnat.
C'est un peu comme un moto, quand on chute, il faut remonter tout de suite sur la bécane.
Et c'est ça, il ne faut pas rester sur la défaite, faut pas, absolument pas.
Pierre.
Ouais, tu parles des scores 9-1, 6-0, ouais, etc. On s'en souvient de toute façon. Moi, je parle par expérience et je ne devrais même pas le dire, mais l'histoire est périmée maintenant. Au jeu de 83 en rugby, c'était à l'époque du tournoi des Jeux du Pacifique à Pierre, au Samoa, au BA15, on avait pris 104-6 par les Fidjiens. 104-6.
Ça reste.
Ça reste gravé dans ta mémoire, et cette même équipe fidjienne, 4 ans après, en 87, ils avaient failli battre l'équipe de France à la première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc ça reste quand même des très bons souvenirs après, même si sur le coup la nuit a été très courte et voilà, et le lendemain il fallait se remettre à l'ouvrage. Voilà, mais bon, c'est des expériences qui forgent le caractère et puis qui permettent aussi de partir. Voilà.
On va rester dans le football si vous le voulez bien, parce qu'il y avait semaine de Coupe d'Europe pour les clubs français. On va rappeler les résultats en Ligue des Champions. Marseille qui s'est imposé 4-0 sur l'Ajax Amsterdam, le Paris Saint-Germain qui est allé s'imposer 2-1 face à Barcelone, le match nul à Louis II de Monaco face à Manchester City 2-0. Il y avait aussi Europa League avec la victoire de Lyon 2-0 sur Salzbourg. La victoire de Lille, je crois que c'est le premier club français qui va s'imposer sur le terrain de l'AS Rome. Et Fenerbahçe qui a battu Nice 2-1. Et puis il y avait aussi de la Ligue Conférence, on n'en parle pas assez souvent. Et Strasbourg qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Bratislava. Peut-être la Ligue des Champions, Pierre Forest, vous êtes content forcément, Marseille a gagné 4-0 contre l'Ajax.
Oui, mais ce que je retiens surtout de ce tour de Coupe d'Europe, c'est vous l'avez dit, le match Lille à Torino, je crois.
Ouais, à l'AS Rome.
À l'AS Rome, plutôt, avec ce pénalty qui a été tiré, non, c'est celui-là là, qui a été tiré.
Oui, il y a trois arrêts, hein, c'est ça.
Trois arrêts du gardien. Ouais. Donc là, là aussi, c'est un exploit du gardien. Et peut-être, je pense que celui qui a tiré là, il n'est pas prêt de retirer un péno.
Ouais. Eric ?
Oui, ben des matchs vraiment intéressants. L'OM qui... 4-0 contre l'Ajax, c'est pas rien.
Si on pouvait ouvrir le micro de Eric Savignac, ça serait bien, mais a priori, on ne m'entend pas en régie. Messieurs, dames, allô, s'il vous plaît. Non, bon, bah, écoutez, on va continuer comme ça. Oui, 4-0, si on pouvait ouvrir le micro d'Eric Savignac, ça nous arrangerait, parce que comme on fait de la radio, c'est quand même plus pratique. Vous disiez, Eric.
Je faisais des signes. Non, là, c'est de très beaux matchs. Franchement, c'était très... Pour moi qui ne suis pas un adepte des pouces cailloux, là, je me suis quand même... Je me suis régalé avec des matchs. L'OL qui gagne et qui est défait 1-0 par le TFC, ça m'arrange aussi. Donc, vraiment, c'est que le début.
Ouais.
C'est que le début, mais on a de très belles confrontations. Cette nouvelle Coupe d'Europe, elle permet ça, au moins. J'ai trouvé qu'il y avait des matchs
très plaisant. Monaco, j'étais un petit peu supporter de Monaco, bon, ils auraient pu gagner, ils se sont fait accrocher par une belle équipe de Manchester.
C'est dit, ouais.
Enfin, quand je dis accrocher, voilà, c'est que 2-2, mm-hmm. ils auraient pu franchir le pas. Et puis bon, le PSG, Pierre, qui gagne Barcelone, ça c'est pas rien, c'est pas anodin, même si Barcelone perd en championnat. Mm-hmm. Juste après, peut-être qu'ils sont pas en état de grâce en ce moment et qu'ils vont changer de coach, mais... Voilà.
Mais c'était ça,
très
compte.
Ça compte.
Clément, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe.
Pas du tout suivi.
Pas du tout suivi. Alors on va passer au rugby si vous voulez bien. Avec le top 14 pour commencer. Belle journée encore ce week-end. On va rappeler les résultats brièvement. Montpellier qui s'est imposé 37-13 sur La Rochelle. La victoire de Toulon 33-17 sur Pau. Clermont qui a atomisé Montauban. Je pense que les Montalbanais s'en souviendront. C'est comme la défaite que vous aviez subie, Pierre. Montauban qui s'est incliné 84-31 face à Clermont. Castres qui a battu le Racing 92-20-16. Une victoire à l'extérieur, celle du Stade français 28-11 sur Perpignan. Bordeaux-Bègles s'est refait la cerise un petit peu en s'imposant 32-20 sur Lyon. Et puis ce matin, Bayonne s'est imposé à Jondegé 40-26 sur Toulouse. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée, Eric? La défaite du Stade.
Déjà.
Ça fait, bon, vous vouliez plus venir à l'émission.
On est sur un match de championnat et comme on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Mais là, ça aurait été bien d'aller battre Bayonne à la maison, mais. Mm-hmm. Maintenant, voilà, le match a été une gestion un peu particulière. Ça a été, on le reprendra peut-être sur le Championship, avec des premières mi-temps assez équilibrées, puis après, derrière, on lâche. Pour revenir sur Montauban, je pense que Tilleuse Borne, qui est intelligent, cible les matchs pour justement se placer au niveau du maintien. Mm-hmm. Donc là, aller battre Clermont, c'était pratiquement impossible. Donc il a fait tourner. Donc, je crois qu'il n'y avait que 2 ou 3 titulaires du match mm-hmm. précédent. Mm-hmm. Donc là, c'est normal.
Est-ce que c'est un moyen, parce que Montauban est promu cette saison dans le top 14, on sait qu'en général, les promus, c'est très compliqué de rester. Ils font souvent le yo-yo. Est-ce que... choisir ces matchs, finalement, c'est pas la bonne méthode pour essayer de se maintenir, même si sportivement c'est peut-être un peu dommage.
Forcément, parce qu'ils n'ont pas la profondeur de banc, ils n'ont pas la capacité à trop faire tourner. Donc là, ils font même jouer des joueurs du pôle espoir, enfin espoir. Donc, ils ciblent carrément. Ils vont essayer de gagner un maximum de matchs à Sapiac. Mm-hmm. Et puis à l'extérieur, ils vont peut-être un peu lâcher en allant peut-être voir chez des concurrents un peu plus faibles si Perpignan ne se relève pas ou autre. Mm-hmm. Voilà, on essaie de gagner les quelques points et de gratter à la maison. Et à l'extérieur, on met pas toutes les armes sur le tapis. Quoi.
Mm. Pierre, sur cette journée de top 14.
Sur cette journée, je retiendrai évidemment Bayonne, qui poursuit son invincibilité à domicile quand même. Mmh. Toute la saison dernière, ils n'ont pas perdu un seul match chez eux.
Et ils sont en tête du classement général.
Ils sont en classement en général. Mmh. Le prochain week-end, je crois, il me semble qu'ils ne se déplacent pas très loin. Ils se déplacent chez les cousins Bernay. C'est Pau-Bayonne. Mmh. C'est un derby basco-hollandais, comme on dit. Et donc, ça va être Bernay. Et ça va être un bon match. Il ne fait pas bon se déplacer pour les leaders en ce moment, surtout en début de saison. On est à la 5e journée. Mmh. Toulouse, 2 fois, ouais. qui a chuté lourdement, une fois à Montpellier il y a 15 jours, et là à Bayonne. Mmh. Surtout sur la fin, ils ont lâché. Et puis également l'UBB, qui se refait la cerise à la domicile. Ils ont battu, on va dire, difficilement, malgré le score, le Loup, qui était jusqu'à maintenant le leader, l'équipe de Lyon. Et le prochain week-end va valoir son pesant d'or, puisque je crois, Toulouse reçoit à domicile l'UBB. Mmh, voilà. Ouais. Donc c'est une finale.
Une finale avant l'heure?
Avant l'heure, mais surtout la finale de la saison dernière, voilà, ça. En championnat. Mmh. Par contre, il y a 2 faits marquants, là. C'est deux grosses équipes, là, je trouve, qui sont mal démarrées. Il y a La Rochelle, qui est actuellement 11e.
11e, c'est ça.
Qui a encore perdu, là. J'ai entendu les résultats à Montpellier, je crois, ils ont perdu. Et là, ils sont 11e sur 14. On dit que les deux dernières places, c'est Montauban et l'USAP Perpignan. Ouais. 11e, on a La Rochelle. Les 12e, on a Clermont. Mmh. Donc, c'est des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir en si mauvaise position.
Ceci étant, il n'y a que 6 points d'écart entre Montauban, entre Clermont qui est 12e et Bayonne qui est en tête.
Mais l'objectif premier des équipes, la plupart... c'est d'abord de se qualifier dans les 6 premiers. Mmh. Parce que quand on est dans les 6 premiers, après, on peut participer aux phases finales, et participer aux phases finales, ça fait rentrer beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, comme on voit maintenant que les effectifs sont professionnels sont de plus en plus nombreux, parce que la saison, elle est longue. Le top 14, c'est quand même 26 journées. On est déjà à 5. Il en reste 21 derrière. On a les matchs de l'équipe de France. Et
la Coupe d'Europe.
La Coupe d'Europe qui va arriver. Donc, voilà. Moi, donc,
ce soir, il y avait la nuit du rugby.
Voilà.
Ils sont pas mal à être.
Donc, on constate un costume et paillettes.
On constate un resserrement des 5-6 équipes en tête, là, avec 2 ou 3 points d'écart seulement. Ouais. Donc, ça va être ça toute la. Toute la saison pratiquement, et ça va lâcher au fur et à mesure sur les matchs retour. Voilà. Donc, quand les internationaux ne seront plus là, et là, ça va, c'est là qu'on va voir les bonnes écuries, les écuries les plus solides pour tenir la cadence et la route.
On parlait de Montauban qui choisit ses matchs. Est-ce que justement, pendant cette phase de l'année où les internationaux seront très sollicités, qu'il y aura les matchs de Coupe d'Europe qui vont solliciter les organismes, est-ce qu'un club comme Montauban peut aller et gratter des points pendant cette période-là?
C'est pas évident parce que
ça restera compliqué.
Ceux qui lâchent leurs internationaux pour l'équipe de France, il y a la relève derrière, et ceux-là, ils ont le poignard entre les dents, le couteau entre les dents, ils veulent gagner leur place.
Parce qu'il y a des places à faire.
Voilà, il y a des places, donc.
Ils auront quand même sur quelques matchs le.
Mais à la décharge de Montauban, quand même, ils n'ont pas eu le temps de recruter parce qu'ils ont fini très tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la saison, ils ont fini au.
Et puis à aucun moment, ils pensaient, puisqu'ils étaient en repêchage, ils pensaient battre Grenoble. C'est tombé. J'étais sur place à ce moment-là. Il y avait plus de. Pourtant, Montauban est à une demi-heure de Toulouse.
Tout le monde s'attendait.
Il y avait plus de Grenoblois, place du Capitole, que de Montalbanais. C'était la vraie surprise. Donc là, voilà, ils sont là. Je pense qu'ils vont. Ils ont vraiment un manager qui est exceptionnel. J'ai toujours aimé ce joueur, Guy Osborne. Et ils ont un staff, ils ont un peuple montalbanais, une culture. Donc je pense qu'ils peuvent faire quelque chose à ce moment-là, peut-être, qu'ils y arriveront. Voilà.
On va poursuivre avec le rugby, et cette fois-ci dans notre hémisphère, le rugby championship. C'était la dernière journée ce week-end avec la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée 28-14 en Australie. C'était à Perth le match. Et l'Afrique du Sud qui a été s'imposer de justesse 29-27 en Argentine. Au classement général, ce sont... À Twickenham, mais face à l'Argentine, c'était l'Argentine qui recevait officiellement dans ce match. L'Afrique du Sud qui s'impose donc à l'issue de ce tournoi devant la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine. On a vécu un rugby championship extrêmement serré cette année, Pierre.
Ouais. Très serré, ouais, par rapport aux autres années. Il faut dire que dès la première journée, l'Australie, qui était un peu au fond du trou, qui va gagner le premier match en Afrique du Sud. Ça a été une grosse surprise. Mm-hmm. Tiens, qu'est-ce qui se passe, etc.
Les Argentins qui battent les
Blacks. Donc il y a eu, d'ailleurs, dans le classement final, ils sont ex aequo, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.
Exact.
Ils sont simplement départagés sur la rencontre en cas d'égalité. C'est quand ils sont rencontrés. Au match aller en Nouvelle-Zélande, à l'Eden Park, ils ont gardé leur invincibilité en battant les Sud-Af. Mais par contre, le week-end d'après, je ne sais pas où c'était, en bas à Wellington, je crois. Ouais. C'est là où il y a eu les 50-12.
Ouais, la défaite historique, pratiquement.
Donc voilà, ils ne doivent leur succès sur cette édition 2025 avec ce truc-là. Mais cela dit, sur l'ensemble de la Championship, les Sud-Africains, c'est la 7e fois qu'ils gagnent ce trophée, dont 2 consécutivement, en 2024-2025. Et voilà, donc ça prouve encore le réservoir extraordinaire de ces Sud-Africains qui pratiquent un rugby très, très vif, très inspiré, très physique en même temps, mais rapide. On a vu, ils ont sorti une charnière là, de jeunes. Hein. Je ne me rappelle jamais les noms, puisqu'ils sont tout jeunes et tout nouveaux. Vraiment, c'est incroyable. Il y a un potentiel extraordinaire.
Eric, vous disiez, c'est le plus beau rugby championship qu'on ait suivi.
Oui, de par le suspense. Bon, il y a eu cette victoire de l'Australie et de l'Argentine. Mais là, sur le dernier match, les Springboks sont passés pas loin du coup près. Donc l'ancien Montpellierain, Cobus Reinhardt, qui marque l'essai. On finit quand même 29-27. C'est pas évident. Alors, les deux matchs étaient un peu similaires, avec une première mi-temps qui était donnée un petit peu pour les Australiens
et un petit peu dans le en termes de jeu. Moi, j'ai bien apprécié la similitude entre l'Argentine et l'Australie, qui est faite de jeux de passe, de mouvement. Mm-hmm. Et en face, quand même, des grosses machines qui ont su attendre et être percutant et opportuniste. On a découvert des joueurs. On a découvert des joueurs, notamment la première sélection de l'ouvreur, Geronimo.
J'ai plus le nom en tête.
C'est vraiment un joueur intéressant, avec un coup de pied, mais comme les Argentins savent le faire. Mm-hmm. Les deux Toulousains, Choco Barres et Maya.
On en revient toujours à Toulouse. Hein.
Un petit peu, ouais. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ça a été un beau rugby. Mm-hmm. L'Argentine aurait mérité maintenant les Sudaf, dans leur construction, on parle même de l'Australie pour la prochaine Coupe du Monde, mais les Sud-Africains, s'ils restent, même s'ils ont des joueurs vieillissants, ils restent mais physiquement monstrueux avec ce fameux ouvreur. Sacha Feinberg, qui est extraordinaire, qui a un jeu, il a la rapidité d'un ailier, il a une technicité incroyable. Mm-hmm. Et voilà, ce qu'a manqué à l'Argentine et à l'Australie, c'est ses couvertures au deuxième rideau, ses coups de pied un petit peu. Ça se joue sur des détails. Mais en face, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud a joué sur un physique incroyable, une roublardise, Cobus Reinhardt, il a 36. Mmh. 36 ans, bon, il ne sera peut-être pas à la prochaine Coupe du Monde, mais moi j'ai été impressionné. Je ne suis pas fan du jeu des Sud-Africains, mais bon voilà.
Oui, on était habitué à un jeu un peu de bourrin, faut dire la chose.
Quand le rugby part de devant, voilà. Chez eux, ça prend tout son sens. Mmh. Voilà.
Pierre ?
Oui, on les attendait, les Néo-Zélandais et les Sud-Africains, sur cette édition 2025, mais je crois que Bruno l'a dit le week-end dernier, la semaine dernière, l'Australie, on constate un renouveau du rugby australien. Oui. Ils étaient un peu au fond du trou, et là, est-ce que c'est la perspective d'organiser la prochaine Coupe du Monde chez eux? Mais là, il y a une bonne levée, comme on dit, avec des jeunes, cette paire de centres-là, qui est extraordinaire. Et quand on les voit jouer...
Ouais, ils en ont un qui joue chez les Roots. Voilà,
ça promet une édition 2026 sur ce championship qui sera en plus de l'Argentine qui va progresser encore. Donc, voilà.
C'est peut-être anecdotique, mais les Blacks finissent pas finalement, j'allais dire, sans titre dans ce rugby championship, puisqu'ils remportent la Blady Slow Cup finalement. Oui, oui. Ouais, on peut rappeler ce que c'est, la Blady Slow Cup?
C'est le trophée qui entre les deux nations cousines, on va dire ça comme ça, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Mais ça compte vraiment dans une carrière pour un joueur d'avoir remporté la Blady Slow Cup?
Pour les Français, non. Mais
non, 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 mais...
c'est un peu le crunch les Anglais, ou pas choper la cuillère de bois, voilà quoi.
Et l'Afrique du Sud, ça en tournée, et rencontre l'équipe de France au Stade de France le 8 novembre prochain.
Ouais.
Donc on va jauger déjà un petit peu l'équipe de France à ce moment-là et le top 14 quand on ira en même temps. Donc
bien sûr.
On est parti pour une longue saison encore.
Messieurs, on va marquer, c'est l'heure de la mi-temps, on va marquer une petite page de pub et puis on revient dans un instant. Et avec Clément Muller, on parlera notamment moto, bien évidemment. À tout de suite.
RRB, la pub. Au Château Royal, votre restaurant Pirogue vous accueille de nouveau avec une nouvelle carte qui sublime le meilleur des produits locaux et saveurs d'ailleurs. Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, votre restaurant Pirogue est l'adresse idéale pour un dîner d'exception, en tête-à-tête ou entre amis. Nous vous accueillons le soir, du mardi au samedi, de 19h à 22h. Réservez votre table au 23 01 10 et laissez-vous surprendre. Pirogue, votre restaurant gourmet au Château Royal.
Chez Lagoon, on fait plus que vous connecter à Internet. On vous accompagne au quotidien. Que ce soit pour vos loisirs, le télétravail ou rester en contact avec vos proches, on est là, tout simplement. Rejoignez-nous et découvrez nos offres sur www.lagoon.nc.
Lagoon, Internet, passionnément.
En octobre, Yubai Kotex présente l'opération Uni pour elle. Pour chaque paquet de protection acheté, 20 francs seront reversés à l'association Amazon Nouvelle-Calédonie au profit des familles de femmes touchées par la maladie. Soutenez autrement celles qui luttent chaque jour avec Yubai Kotex. Plus d'informations sur le Facebook Sakebon NC.
RRB Recherche, un agent commercial patenté. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h30, retrouvez tout de suite Lionel Sabot pour Sportmidable.
Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
La deuxième mi-temps d'une semaine Sportmidable avec nos invités Pierre Forest, Eric Savignac et Clément Muller, vers qui je me retourne puisque nous allons parler MotoGP. C'était le Grand Prix d'Indonésie ce week-end. Mais Clément, revenons une semaine en arrière si vous le voulez bien, puisque c'était le Grand Prix du Japon et le titre mondial pour Marc Marquez. On n'avait pas eu votre réaction à ce titre de Marc Marquez. Alors, c'est pas une surprise, mais c'est un titre magnifique.
C'est pas une surprise. Pour ceux qui suivent toutes les dates, ça a commencé à devenir bon, c'est quand est-ce qu'on arrête et qu'on passe à autre chose.
C'est ça.
Parce qu'être champion du monde 5 dates avant la fin, c'est quand même assez exceptionnel. Il l'a fait de la plus belle des manières, la célébration a été magnifique. Mais surtout, je pense que pour beaucoup de passionnés, c'est bon. Maintenant, il reste 5 dates. Marc, il a fait son truc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on check? Parce qu'il ne faut pas oublier que Marc, il a 32 ans, il est vieillissant sur le plateau et il faut commencer à regarder qui c'est qui pousse derrière. Et du coup, c'est pour ça que ce Grand Prix d'Indonésie était d'autant plus intéressant après le sacre de Marquez les semaines précédentes.
Éric Savignac s'interrogeait pendant la pause pub en disant: est-ce que c'est reparti pour une série pour Marc Marquez? Vous dites qu'il est un peu vieillissant.
Non, il est vieillissant, il reste...
Oui, on est d'accord, à 32 ans, on est encore...
Il reste jeune, mais c'est vrai que... ouais, voilà. Non, je pense en tout cas, il est dans la bonne écurie du moment, il ne s'est pas trompé, il a la moto la plus performante du plateau avec la meilleure équipe. Ça se passe bien avec son coéquipier... Il y a quand même son frère.
En même temps, ça se passe bien avec son coéquipier parce que son coééquipier, on l'a pas vu de la saison.
Non, et pourtant, il est troisième du championnat.
Mais on l'a pas vu de la saison.
Effectivement. Mais du coup, ça se passe bien parce que du coup, il n'y a pas de battle entre.
Il y a un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2.
Voilà, exactement. Du coup, ça se passe bien et je pense que ça a aussi son importance. Donc, est-ce qu'on va le revoir pareil l'année prochaine? Ça a l'air d'être compliqué de venir le détrôner sur une Ducati officielle. On sait jamais. Il y a des jeunes qui poussent fort, donc on sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une surprise et peut-être la surprise viendra de son frère qui aura une moto officielle l'année prochaine.
Alors, on va revenir sur le Grand Prix d'hier, le Grand Prix d'Indonésie. Vous me disiez en rentrant dans ce studio, moi je n'aime pas vraiment ce Grand Prix.
C'est pas mon circuit favori en termes de tracé.
C'est des circuits qui servent à rien ?
Non, ça sert toujours, il y a toujours des pilotes comme ça. C'est un circuit qui est sinueux, avec une petite ligne droite, qui est assez éprouvant pour les pilotes, parce que même s'ils prennent plus de 300 dans les lignes droites, c'est quand même là qu'ils peuvent un peu souffler. Là, la ligne droite est hyper courte, il y a des enchaînements, la piste est peu large, ça fait beaucoup de tours en course, on est sur des courses avec 27 tours, donc c'est beaucoup de...
Plus la course sprint.
C'est pas mon circuit favori. Après, il en faut pour, j'ai envie de dire, tous les pilotes, et plus que pour tous les pilotes, il en faut pour toutes les motos, parce que là, très clairement, il y a forcément une histoire de pilote, mais il y a une histoire de moto avant tout, et là, ça l'a encore démontré en Indonésie.
Avec la victoire, et c'est sa première dans une course principale de Fermín Aldeguer, l'Espagnol, devant Pedro Acosta et Alex Marquez. C'est un podium un peu surprenant parce que Marc Marquez n'a pas fini, Pecco Bagnaia n'a pas fini, puis côté français, Fabio Quartararo finit 7 et Joan Zarco finit 12. C'est un podium un peu surprenant, Clément, ou pas franchement?
Surprenant
avec ce type de circuit,
inhabituel, ouais. Mais pas surprenant parce que depuis le début du week-end on a clairement vu que les Ducati officiels, pas juste Marc et Pecco, c'est les motos officielles ne fonctionnaient pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une nouvelle réglementation sur les pneus ont été changés pour ce type de Grand Prix parce que les températures de piste sont quand même assez folles. On peut avoir 60 degrés de piste, de température de piste, donc ils ont remodifié les structures des pneus et forcément ça a un impact sur les réglages des suspensions, selon les fabricants, plus ou moins importantes. Là, très clairement, on l'a vu, les motos officielles n'ont pas réussi avec ces pneus-là. Des motos, c'est pas Ducati, parce qu'au final, le meilleur week-end est quand même signé Ducati, parce que Aldeguer est Ducati et Alex Marquez est Ducati. C'est les deux meilleures performances du week-end. Donc c'est vraiment une histoire aussi d'écurie et de setting dans l'écurie et de réglages au sein de l'écurie. Quoi.
Est-ce que finalement, une semaine après son titre mondial, Marc Marquez, il n'a pas un peu lâché les choses en disant « Bon, finalement, voilà, je suis champion du monde, c'est... »
Alors, ce n'est pas du tout son style. On l'a vu en plus même assez agressif, assez incisif. On l'a vu attaquer, on l'a vu même percuter... on l'a plutôt vu en difficulté qu'en relâchement. Il a été assez agressif. D'ailleurs, il repart avec une fracture avec sa chute contre Bezzecchi. Donc, bon. Non, je dis pas que. Je pense que s'il pouvait prendre encore cette victoire, il l'aurait pris.
Oui, il n'y a pas de relâchement après une saison intense.
Non, je dirais qu'on est peut-être plus attentif à ne pas se blesser, mais bon. Là, l'exemple nous prouve un peu le contraire. Donc malgré lui, non, ouais.
La bataille pour la suite du classement, ceux qui se placeront derrière Marquez, ça va être intéressant jusqu'à la fin de la saison.
Là encore une fois, on l'a pas trop vu du week-end, mais celui qui marque le deuxième nombre de, enfin le le deuxième plus gros nombre de points, excusez-moi, c'est Alex Marquez. Alors Fermín en marque 34, Alex 22, mais c'est quand même le deuxième pilote du week-end cumulé. Donc quand Pecco, qui est troisième, lui marque 0. Il reste 4 dates sur un circuit comme Phillip Island qui arrive en Australie. Ils ont tous les Ducati, c'est un circuit qui va vite, c'est pas spécialement très chaud. Je pense qu'il n'y aura pas d'écart aussi important. Et je pense que pour la deuxième place, Alex Marquez est plutôt sécurisé, je pense. C'est plus Bagnaia, voir comment il rebondit psychologiquement de sa contre-perf après son week-end au Japon.
Magnifique au Japon, extraordinaire.
Ouais, il prend tous les points du Japon, il en prend 0 en Indonésie. Il faut voir comment il rebondit à ça. Parce que derrière, y a un Bezzecchi qui a faim et qui a montré ce week-end qu'il était présent, bien présent.
Pierre-Éric, vous suivez un peu MotoGP ? Pierre,
très honnêtement, non.
Non, parce que vous regardez tous les matchs de rugby et qu'après, vous n'avez plus le temps.
On passe pas 24 heures devant la télé non plus. Non,
parce que vous allez vous baigner. Vous allez nager.
Oui, voilà. Hein, voilà.
C'est ça. J'avais dit que je trahirais pas le secret, mais je l'ai fait quand même.
Je le suis un peu, mais comme dit Clément, c'est vrai qu'au moment où Marquez a commencé à enfiler les victoires, c'est moins attrayant. C'est un petit peu comme sur la Formule 1, quand Verstappen... gagne un petit peu tout. Bon, là, un peu moins cette année. Donc, je suis revenu un peu plus sur la formule.
Pierre ?
Non, je ne suis pas aussi fanat que mon ami Thierry, que vous connaissez, qui vient souvent.
Thierry Cornaille.
Voilà, qui est un fanat. Lui, il est fanat de... Je crois qu'il a... Il a failli faire une carrière dans la moto, donc. Mais bon, après, le rugby l'a rattrapé, heureusement. Pour le rugby.
Heureusement pour le rugby. Prochain rendez-vous, c'est l'Australie, Clément.
L'Australie, le 19 octobre.
Le 19 octobre,
ouais, donc pas loin de chez nous. Voilà, dans un circuit qui est sympa en plus, donc. Non, ça va être c'est chouette à suivre.
Messieurs, on va terminer cette émission avec vos coups de cœur, vos coups de griffe, ce qui vous a marqué dans cette semaine de sport. Pierre, on commence avec vous.
Moi, je vais rester dans le sport collectif.
Ouais. Vous avez le droit.
Et pour mettre en avant la jeunesse, encore une fois, on l'a parlé tout à l'heure, l'expérience des U20 calédoniens, des Kagou footballeurs, là, qui est donc petit coup d'œil à. Coup de pouce à l'équipe de Gilles Tabergeux, qui puisse continuer dans cette voie-là. C'est le début peut-être d'une longue carrière pour eux. Donc c'est bien, c'est un début difficile, certes, mais je pense qu'il n'y a qu'en rencontrant des difficultés qu'on peut progresser, hein, comme partout dans tous les domaines d'ailleurs.
Le coup de cœur de Pierre Forest, Eric.
Pareil, on va rester dans le collectif, mais côté féminine. Grande félicitation aux filles pour leur qualification. Et aussi, je voulais souligner encore la participation de Pierre Ferbrand,
au championnat du monde.
Voilà, qu'il continue.
Ça n'a pas été simple cette fois-ci, mais voilà, 54
c'est pas simple,
ans, il est toujours là. Toujours avec la banane en plus, ce qui est extraordinaire. Clément ?
Moi, je ne veux pas être très... je veux pas aller chercher très loin, mais Fermín Aldeguer, le vainqueur de ce week-end, qui a seulement 20 ans.
Oui.
Seulement 20 ans, et ça nous rappelle Marquez en 2013, lors de ses premières victoires, donc... Bravo.
Merci messieurs d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro d'une semaine sportmidable. On se retrouve lundi prochain, bien évidemment, même endroit, même heure. Passez une excellente soirée. Dans un instant, l'info sur Radio Rythme Bleu. Ce sera Info Soir avec Léana Colombo.